Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Vous savez qu'on a quelques dizaines, quelques centaines d'anges parmi nous. On fait ce jeu des anges et des humains dans lequel chaque membre de groupe d'un GPS devient un ange pour quelqu'un qui est son humain. Et dans la semaine, il lui téléphone, il prie pour lui, il lui fait un petit cadeau le dimanche. Quels sont ceux qui ont pensé à faire un cadeau ce matin ici? Il y a quelques cadeaux qui ont commencé. Ça commence à peine la semaine passée. Donc la semaine prochaine, tous ceux qui sont dans les GPS, tous les anges, pensez à amener un petit cadeau. Soyez pas des anges avares. Soyez des anges angéliques, c'est-à-dire généreux, portant le cœur du Père. Puis cette semaine, on va continuer à voir cette dynamique relationnelle qui se manifeste. Nous sommes dans cette magnifique église où notre cible est de toucher le cœur de Dieu avec passion et toucher notre génération avec compassion. Mais pour le faire, nous devons être nous-mêmes une communauté solidaire, une communauté de personnes qui ont des relations, pour que les personnes qui viennent parmi nous ne tombent pas au milieu d'un grand orphelinat, mais dans une famille. Et une famille remplie de petites familles que peuvent être ces GPS. C'est pourquoi nous choisissons pendant ces deux mois qui sont là de développer ce thème de bâtir des relations saines, de devenir une communauté solidaire. Pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, on a simplement échangé quelques notions. Je vais vous rappeler ici, mais je ne vais pas rester longtemps. Je vais vous encourager à vous procurer le CD. Nous avons dit que les GPS ont commencé, mais les GPS, ce n'est pas une réunion de semaine. Tous ceux qui croient que les GPS sont une réunion, c'est faux. Les GPS, c'est un ensemble de personnes qui ont décidé, par la volonté de Dieu, de partager une saison de leur vie pour s'aider à devenir des disciples de Jésus. Jésus a pris 12 et il a vécu toute une saison de leur vie avec eux ensemble et eux ensemble les uns avec les autres pour les former comme disciples. On ne devient pas disciple en prenant des cours par correspondance ou des cours bibliques seulement. On devient disciple en mêlant nos vies à la vie des autres personnes qui veulent avancer avec Jésus. Et on marche ensemble et on apprend ensemble et on regarde comment la vérité rencontre nos vies. La plupart des classes bibliques du monde entier enseignent, on va faire des disciples. Comment le faire? On va dire, Jésus a dit, enseigne-leur tout ce que je vous ai prescrit. Est-ce que Jésus a dit, enseigne-leur tout ce que je vous ai prescrit? Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur à pratiquer. Ça ne veut pas dire enseignez-leur à prier, mais enseignez-leur comment prier, quels sont les obstacles que tu rencontres dans ta vie de prière, comment tu peux les surmonter. Est-ce que toi, tu as rencontré ces obstacles? Tu veux bien raconter comment tu as surmonté ça? Et il y a cette dynamique dans laquelle nos vies sont rencontrées par la parole de Dieu et apprennent de la vie les uns des autres. C'est pourquoi cette dynamique les uns des autres est tellement essentielle à grandir en tant que disciple de Jésus. On a posé cette question, Dieu est-il suffisant pour te combler? Plusieurs ont dit oui, c'est vrai que ça sonne très spirituel de dire oui, Dieu est suffisant. Mais il se trouve que ce n'est tout simplement pas biblique. Dieu a choisi de ne pas être suffisant pour nous. C'est pourquoi même quand Adam est dans le jardin d'Éden, la présence de Dieu est là, Dieu vient le visiter, marcher le soir pour le rencontrer. Et pourtant, Dieu dit, il y a quelque chose qui n'est pas bon. Il y a quelque chose qui n'est pas suffisant. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu a volontairement laissé un vide au-dedans de chaque être humain qui ne peut être rempli que par ses semblables. C'est Dieu qui l'a voulu. Non pas qu'il ne pouvait pas être suffisant. Dieu a la capacité d'être suffisant. Ce n'est pas le déshonorer de dire « tu n'es pas suffisant pour me combler ». C'est de dire « je suis d'accord avec toi ». Tu as choisi de laisser un vide en moi qui ne sera comblé que par mes semblables. C'est pourquoi il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu l'a voulu pour nous enseigner que dans la vie, le premier, le plus important commandement, c'est de s'attacher à lui, de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre passion, comme nous le disons à Sans Frontières, ou selon l'immensité de sa grandeur, comme Tabitha nous a encouragé ce matin, avec foi, en nous livrant totalement. Ça, c'est la première dimension d'une vie réussie et d'une vie comblée. Mais la deuxième, Dieu l'a voulu, c'est cette deuxième dimension dans laquelle Jésus nous dit, aimez-vous les uns les autres. J'ai un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. C'est pourquoi devenir chrétien, c'est s'attacher à Dieu par le moyen de la foi et s'attacher à d'autres humains par le moyen de la communion. Il ne peut pas y avoir l'un sans l'autre si nous voulons avoir une vie chrétienne pleine. Tu peux juste dire, je vais m'attacher à aucun humain et prier deux fois plus. Tu deviendras juste deux fois plus mystique. Mais ce n'est pas pour ça que tu seras comblé. Ce n'est pas en augmentant la dimension de tes bras que tes jambes vont pousser. C'est juste ça que je veux dire. C'est que ce n'est pas en augmentant une dimension que tu vas être plus comblé. L'harmonie d'une vie est une vie qui est aussi forte dans son attachement à Dieu que dans son attachement à d'autres. C'est pourquoi nous n'avons pas le choix. Si nous voulons grandir comme des personnes en santé et équilibrées, nous avons autant besoin de Dieu que nous avons besoin les uns des autres. Ils se sont d'abord donnés à Dieu, puis à nous, par la volonté de Dieu. Il y a des personnes à qui Dieu veut que nous puissions nous donner. C'est pourquoi considérez attentivement devant Dieu dans ces jours-ci la possibilité de vous joindre à un GPS. Dans la semaine prochaine, nous aurons la joie d'avoir notre frère Walter qui va prêcher. Dans deux semaines, je voudrais vous exposer le programme au complet de ce que nous allons traverser dans les GPS dans les mois qui viennent. Et moi, je vais faire plus que Jean. Dans deux semaines, je vais demander à tous nos leaders GPS de monter là sur le stage avec moi. Et j'aimerais qu'on puisse les saluer. Jean va faire quelque chose de très beau. On aura dans deux semaines une belle carte avec la photo de tous les leaders GPS. Vous pourrez les voir. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse les honorer parce qu'ils prennent un risque de dire, ben, on va essayer de développer aussi cette dimension les uns les autres. Nous avions vu que cette dimension est mentionnée plus de 60 fois dans le Nouveau Testament. On avait parlé de ces 10 clés, donc les 5 premières, la réciprocité qui est me laisser connaître et chercher à connaître l'autre. C'est une dimension dont nous avons besoin, première clé. Deuxième, la vulnérabilité, s'ouvrir et montrer nos faiblesses. Si nous ne montrons que nos forces et nos exploits, on va impressionner les autres, mais on ne va jamais les attirer. C'est quand on montre nos faiblesses, notre vulnérabilité, que les autres ont une compassion et s'attachent à nous. La vérité, la franchise, ne pas entretenir de secrets. Moins il y a de non-dits, plus il y a de lumière dans une relation. La compréhension, aide-moi à comprendre. Ouvre la négociation. Et enfin, on avait parlé de pardon, surmonter l'offense, puisque Jésus a dit, il est impossible qu'il n'y ait pas des occasions de chute. À ce propos, c'est vrai qu'un jeune homme était amoureux d'une jeune fille. Ça arrive. Et c'est bien heureux. Alors, ce qui était moins heureux, c'est que la jeune fille semblait beaucoup moins amoureuse du jeune homme. Lui a décidé, je vais investir dans cette relation et je vais finir par la gagner. Alors, il lui a écrit une lettre chaque jour. Et il lui a envoyé, ils n'habitaient pas la même ville. Elle recevait la lettre, elle lisait. Au bout de 2 ans, ça avait un impact énorme. Puisqu'au bout de 2 ans, la jeune fille s'est mariée avec le facteur qui lui amenait la lettre chaque jour. Effectivement, quand on investit dans les relations, ça a un impact, mais pas toujours celui que nous espérons. Et c'est pourquoi les relations humaines nous imposent de dire « Je sais que aimer, c'est surmonter l'offense, surmonter la déception, et il est impossible qu'il n'y en ait pas. » C'est comme cela, les relations humaines. Mais quand nous sommes déçus, on va perdre un peu l'innocence, parfois la capacité à s'attacher aux autres par crainte d'être blessé de nouveau. « Oh, j'ai été blessé une fois, j'étais dans un GPS une fois, j'ai été blessé une fois. » Plus m'ouvrir là, c'est bien gentil ce qu'ils nous disent français, mais je connais l'histoire, moi, je me suis déjà fait avoir et je vais plus recommencer. Mais tu sais, c'est juste un choix à faire, surmonter l'offense et s'ouvrir pour s'attacher, ou bien s'isoler, se fermer et finir seul et aigri dans son coin toute sa vie. C'est juste un choix. Tu as juste le choix de pour quelle raison tu veux peiner. Est-ce que tu veux peiner pour bâtir des relations ou tu veux peiner de la conséquence de ton isolement? C'est juste le choix de ta peine sur terre. Bienvenue. On est ici, sur le plancher des vaches. C'est sur la terre. Et c'est comme ça que les choses se passent parmi les humains. Que Dieu nous bénisse et nous aide. Alors, ce matin, nous allons continuer. Sixième clé. Cette sixième clé, c'est ce savoir aimé de Dieu nous conduit à l'estime de soi et l'estime des autres. Ce savoir aimé de Dieu nous conduit à l'estime de soi et l'estime des autres. Dieu est amour et l'Écriture nous dit « Avant la fondation du monde, il nous a prédestinés dans son amour pour être ses enfants. » Lui, il nous a prédestinés dans son amour. Dieu nous a aimés. La source de tout amour, c'est Dieu. La source de toute relation, c'est Dieu. Dieu a voulu être dans une relation d'amour pour moi, avec moi, pardon, avec chacun d'entre nous. Et quand je le reçois, quand mon cœur est comblé de cet amour, je suis rendu capable d'aimer les autres. Mais quand mon cœur est vide d'amour, il n'a aucune capacité à se donner aux autres. Dieu nous aime, et c'est tellement fondamental, mais c'est tellement essentiel de le réaliser. Je crois que la plupart du temps, quand quelqu'un est dans un GPS et n'arrive pas à s'ouvrir, ou quand quelqu'un n'arrive pas même à aller à un GPS parce qu'il a peur juste de rencontrer les autres, c'est parce que bien souvent, il y a juste un manque de certitude d'être aimé par Dieu. La crainte d'être insuffisant. La crainte que si je m'ouvre, on va se moquer de moi. La crainte que je n'ai pas la sécurité nécessaire pour m'ouvrir et m'aimer. Je ne suis pas certain d'être aimé. C'est une chose tellement fondamentale, c'est tellement de base que je dis ici. Mais je me souviens, au début de ma vie chrétienne, pendant des années, j'ai eu du mal à encaisser l'amour de Dieu. Et comment on l'encaisse? Par la foi. Nous avons connu l'amour de Dieu et nous y avons cru. Sans quoi, toutes les belles paroles que nous entendons, si elles ne trouvent pas de la foi, je crois que Dieu m'aime, je sais que Dieu m'aime, alors finalement elles sont comme dans un sac percé, elles ne restent pas et nous avons beaucoup de mal à croire que si Dieu ne m'aime pas, comment les autres vont m'aimer? Et c'est là qu'on commence à devenir timide et bloqué. Regardons ce court extrait de la lettre d'amour du Père. Plusieurs connaissent ici des paroles magnifiques qui viennent de l'Écriture.
Mon enfant, je regarde jusqu'au fond de ton cœur et je sais tout de toi. Je sais quand tu t'assieds et quand tu te lèves. Je te vois quand tu marches et quand tu te couches. Je connais parfaitement le nombre de tes voix. Même les cheveux de ta tête sont comptés.
C'est pour toi.
Tu as été créé à mon image. Je suis la vie, le mouvement et l'être. Je te connaissais avant même que tu ne sois conçu.
Avant que tu sois conçu, Dieu t'a connu, il t'a aimé.
Je t'ai choisi au moment de la création.
Amen.
Tu n'es pas une erreur.
Tu n'es pas une erreur. Dieu t'a voulu, il t'a désiré.
Tous les jours de ta vie sont écrits dans mon livre. Je détermine la durée des temps et les limites de ta demeure. J'ai fait de toi une créature.
Alors je peux dire, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Ce savoir aimé de Dieu nous rend capables de nous aimer soi-même. Et si je m'aime moi-même, je vais aimer les autres comme je m'aime. Aime ton prochain comme toi-même. Si je n'arrive pas à savoir que Dieu m'a aimé à ce point-là, alors je commence à douter que je sois aimable. Et si j'ai des problèmes avec moi-même, je ne suis pas réconcilié avec moi, jamais je vais me préoccuper des autres. Mais quand je sais que Dieu m'aime, quand je sais que Dieu m'aime, quand je sais que rien ne peut me séparer de son amour, je commence à me réconcilier avec moi-même et je me dis, s'il m'aime, je peux m'aimer. Je peux accepter de me traiter de la façon dont Dieu me traite. Et si j'accepte de me traiter comme Dieu me traite, si j'accepte de me voir comme Dieu me voit, je commence à être d'accord avec Dieu. Il m'aime, donc c'est juste de m'aimer. Donc je vais cesser d'être en guerre avec moi-même, je vais m'aimer moi-même. Et si je m'aime moi-même, je vais être rendu capable d'aimer les autres. Aime ton prochain comme toi-même. C'est toujours ce qui arrive dans nos vies. Nous avons connu l'amour de Dieu et nous y avons cru. Nous y avons cru. Ce matin, j'aimerais inviter plusieurs ici dans le temps de prière qu'on va prendre à la fin, à se tourner vers le Seigneur et dire, Seigneur, ton amour, je l'ai entendu encore ce matin, tu m'as aimé avant la fondation du monde, sur ton livre était écrit chacun de mes jours, tu m'as gravé sur tes mains à la croix, tu as démontré cela, mais maintenant je veux dire, je sais que tu m'aimes, je reçois et nous y avons cru. Je me souviens en tant que nouveau chrétien, je suis allé voir le jeune homme qui m'avait conduit au Seigneur, je lui ai dit, Yvan, j'ai du mal à croire que Dieu m'aime. Quand je vois ma vie, quand je vois, comme il me dit, tant que tu vas chercher à le ressentir, ça va être comme dans un sac troué. Et c'est pourquoi, chaque fois, essayez d'aimer quelqu'un qui ne croit pas à l'amour. Vous essayez d'aimer votre conjoint, vous essayez d'aimer votre enfant, vous essayez d'aimer quelqu'un, vous faites tout, mais la personne ne croit pas à l'amour. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si vous mettez de la glace dans le four. Ça fond tout de suite, ça disparaît. Vous remettez, ça fond tout de suite, ça disparaît à l'instant. Et vous dites à la fin, où est la glace? Il n'y a rien. Et la personne vous dit, tu n'as rien mis. Simplement parce que c'est la foi dans l'amour. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Je sais que tu m'aimes. C'est comme placer des diamants dans un sac percé. C'est pourquoi ce matin, je veux t'inviter. Ne mendie plus l'amour. Reçois-le de Dieu. Crois-le. Alors, puisque je suis aimé, je peux aimer. Dieu nous a aimés le premier. Nous pouvons nous aimer les uns les autres. Plus je sais que Dieu m'aime, plus je suis capable d'aimer les autres. Plus je sais que Dieu m'aime, plus je peux m'aimer moi-même, plus je suis capable d'aimer les autres. Vous me suivez ce matin? C'est pourquoi j'aimerais vous dire encore une fois pour tous mes amis québécois, tu n'es pas né pour un petit pain. C'est pas vrai, tu n'es pas né pour un petit pain. Tu sais comment je sais? Je connais le boulanger, il fait que des gros pains. Il fait que des gros. Chacun d'entre nous, il a prévu un gros pain savoureux pour nos vies. C'est pas vrai, tu n'es pas né avec une intention d'être méprisé, d'être petit. Je sais, Gédéon l'a déjà fait. Vous connaissez Gédéon dans la Bible? Il a inventé le héros miniaturisé de la foi, avant que les Japonais le fassent, bien sûr. Vous rappelez quand l'ange de l'Éternel vient voir Gédéon, il paraît presque qu'il est québécois ou japonais. Parce que l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Moi, il répond, moi je suis le plus petit de la famille de mon père, qui est la plus petite famille de ma tribu, qui est la plus petite tribu d'Israël, qui est le plus petit peuple du Moyen-Orient. Hein? Les héros de la foi miniaturisés, avant que les Japonais le fassent. Hein? Hébreux 11, mais version japonaise, tout petit miniaturisé. Tu n'es pas né pour un petit pain. Dis à ton voisin, tu n'es pas né pour un petit pain. Amen. C'est pourquoi chacun peut dire, je suis une merveilleuse créature. Et mon âme le reconnaît bien. Tu as fait de moi une merveilleuse créature. Et mon âme le reconnaît. Je reconnais que Dieu a fait de moi une merveilleuse créature. Bien souvent, pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à être aimés? Parce que bien souvent, nous croyons que si nous jouons le petit pain, les gens vont être attirés par pitié. Mais la pitié, c'est un sac troué. Ça ne marche jamais pour l'amour. La pitié, c'est appauvrissant. Quand on voit quelqu'un qui fait pitié, tu n'as pas envie de l'aimer, tu as juste envie de faire pitié. C'est tout. Mais tu ne laisses rien, parce que de toute façon, tu sais très bien, tout ce que tu mets dans un petit pain, ça s'en va. Tout ce que tu mets dans la pitié, ça disparaît. C'est pourquoi, quand on croit qu'on va attirer l'amour, on se rend un peu plus pauvre, un peu plus malheureux, on se plaint, puis on espère. Il va avoir la compassion, il va juste, on se plaint, puis il regarde. Puis part à autre chose. Parce que ce n'est pas ça le vrai amour. Le vrai amour, c'est tu le reçois de Dieu. Il l'a prouvé à la croix. Il m'aime. Et parce qu'il est amour, il nous enseigne à nous aimer les uns les autres. C'est pourquoi nous avons terriblement besoin de changer l'image que nous avons de nous-mêmes. C'est indispensable, monsieur, madame, tu dois accepter que cette image déformée de la culture, des paroles que tu as reçues sur toi, cette parole déformée. Ainsi, quand nous sommes libérés d'une pauvre image de soi, on peut avoir une bonne image des autres. L'homme bienveillant fait du bien à son âme, mais l'homme cruel trouble sa propre chair. Ça veut dire, je vais traiter les autres comme je me traite moi-même. Si je suis cruel avec moi, je vais être cruel avec les autres. Si j'apprends que Dieu m'aime et me dit, ne sois pas cruel envers toi, je ne le suis pas, je suis un Dieu de grâce, de miséricorde. Si j'apprends à me faire grâce comme Dieu me fait grâce, je vais faire grâce aux autres. Mais si j'ai un regard cruel sur Dieu, et du coup un regard cruel de Dieu sur moi, quand je vais voir les autres, je vais être cruel. Parce que simplement, je commence à projeter cette image de Dieu sur toutes les autres personnes. Je vais traiter les autres comme je me traite moi-même. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. C'est tellement précieux. Quand tu t'aimes toi-même, ça va être tellement facile d'aimer ta femme. Quand tu aimes ta femme, tu vas en recevoir un bien-être toi-même. D'accord, messieurs? Allô, les maris? Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin. Ainsi, l'humilité, ce n'est pas d'avoir une pensée amoindrie de soi, c'est penser moins à soi et davantage aux autres. L'humilité, ce n'est pas juste de se dénigrer, de s'abaisser, c'est juste de penser un peu moins à soi. On a réglé la question. Je suis une merveilleuse créature. Je suis aimé. Je vaux le prix du sang de Jésus. Je suis quelqu'un de valeur. J'ai une grande destinée devant moi. Jérémie 11, 29 me dit que Dieu m'a créé pour un gros pain. Dans la version biblique, c'est « Je connais les projets que j'ai formés sur toi », Jérémie 29, 11, « Projet de paix, non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Je vais te donner un avenir. Tu as une belle destinée devant toi. J'ai prévu un plan extraordinaire. Et nous connaissons le grand metteur en scène qui a tout écrit d'avance. Et il a prévu des grandes vies pour chacun d'entre nous et des vies réussies. C'est pourquoi j'encaisse, je reçois son amour et je vais entrer dans cet amour. Que Dieu soit béni. Je vais aimer les autres. » Comme Dieu m'aime. Septième clé ce matin, c'est d'exprimer son affection. D'exprimer son affection. C'est l'apôtre Paul qui nous dit, Philippiens 4, 10, « J'ai une grande joie de ce que vous avez pu renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. » Vous avez pu renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Je sens que les femmes commencent à être très à l'aise et les hommes un peu moins sur la chaise. Les chaises sont dures à 11h15, n'est-ce pas? Les chaises deviennent un peu dures. Quand on parle d'exprimer son affection, l'apôtre Paul, le grand homme de Dieu, disait, « Ah, oh, ça m'a fait du bien que vous ayez exprimé votre affection. » La semaine passée, j'ai mon ami Stéphane, qui ne peut pas être là ce matin, il est médecin, il travaille ce week-end. Quand je suis descendu, il est venu me dire, Philippe, je voudrais te dire, ça m'a tellement béni ta prédication ce matin. Oh, mais je sais que tu n'as pas besoin qu'on te le dise. Je lui dis, et pourquoi j'en ai pas besoin? Depuis quand je ne suis pas humain, moi? Hein? Bien, chacun d'entre nous, nous avons besoin d'entendre des paroles d'affection. Alors, nous avons besoin en paroles parce que la parole est un moyen puissant. La langue des sages apporte la guérison. Une bonne nouvelle fortifie les membres. Ce que l'on dit, ce que l'on entend, a des incidences sur notre morale et même sur notre santé. Les paroles agréables sont douces pour l'âme et salutaires même pour le corps. C'est pourquoi nous devons apprendre, c'est une des clés, apprendre à exprimer verbalement, oralement, avec des mots, notre affection. Qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui construisent, qui édifient et qui communiquent une grâce. Une parole communique une grâce. Souvenez-vous, au commencement, le Saint-Esprit était au-dessus des eaux, tout était informe et vide. Le Saint-Esprit pouvait agir, mais de quoi avait-il besoin? D'une parole. Dieu dit et le Saint-Esprit a agi. Toute parole est une base d'action pour que le Saint-Esprit agisse, ou parfois qu'un mauvais esprit puisse agir. Je ne dis pas que systématiquement, il y a un mauvais esprit qui agit sur une parole, mais on dit une parole méchante, et un esprit méchant peut s'en saisir. Parce qu'une parole, c'est plus que des mots. Elle communique des sentiments, et elle communique une force, elle communique une grâce, ou une force destructrice, ou une force de construction. Mais l'apôtre Paul nous dit « communiquer des paroles » qui vont transférer de la grâce sur les autres, qui vont leur donner le goût de vivre, qui vont les rappeler combien ils sont aimés, combien ils sont des personnes de valeur, combien ils sont des gros pains. T'es né pour un gros pain. T'es né pour un gros projet. T'es né pour quelque chose de grand. Alléluia, béni soit Dieu. Alors, c'est pourquoi j'aime faire cela. De temps en temps, on fait ce petit exercice et on va le faire dans les GPS aussi. Ce que j'aime chez toi. Ça veut dire, on se met par petits groupes de 5. Et puis les quatre autres commencent à écrire sur une feuille. On va le faire mais dans 2-3 mois, parce qu'on a le temps, il faut qu'on prenne le temps de se connaître. Puis on va écrire ce que j'aime chez toi, 4 ou 5 choses que j'aime. Essayez de le faire ce midi si vous mangez avec des amis au restaurant, si vous êtes en famille. Chaque membre de la famille prend un petit cahier, puis écrit 4-5 choses que j'aime chez toi. Et puis, peu à peu, les 4 ou 5 autres disent à une personne, « Moi, ce que j'aime chez toi, puis commence à le dire. Une chose, deux choses, trois choses. » Le premier commence à être... Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu autant de choses. En quelques secondes, là, inondé. Deuxième, il est déstabilisé. Troisième, il est KO. Quatrième, il pleure. Cinquième, il supplie que ça arrête. Parce que je crois qu'il y a une puissance dans la parole et qui exprime l'affection. Imaginez une belle famille nombreuse. Je vois Gilles et René, mes amis qui sont là. Belle famille, 5 enfants. À 7, vous le faites. 6 qui vont te dire ce qu'ils aiment chez toi, René. Tu finis pas la journée sans larmes. Et c'est normal. Et on est béni par ces paroles d'affection. C'est pourquoi ne méprisons pas le fait de dire « Oh oui, mais la Bible dit n'aimez pas en paroles seulement. » C'est vrai, pas en paroles seulement, mais commence par là. Commence par là. Ce n'est pas parce qu'on ne doit pas en rester là qu'il ne faudrait pas commencer par là. Et c'est pourquoi je veux vous encourager. Pas à la flatterie, mais donner un compliment, une parole qui communique une grâce. D'ailleurs, on va le faire ce matin ici pour quelques-uns. On peut aussi le faire par écrit. Moi, j'aime bien, et puis je vais encore dire un petit clin d'œil à Louise ou à Sylvain. Je ne suis pas encore au rodé ce soir à qui il faut le dire, mais si dans la librairie, là, on avait des cartes, avec des cartes « bravo », des cartes « merci », des cartes « t'es une personne de valeur », des cartes « courage », c'est extraordinaire. Parce qu'on pourrait dire de temps en temps, en début de culte, tous ceux qui sont là, à moins 5, « courez chercher 3 cartes et remplissez-les, donnez-les à quelqu'un » ou en fin de culte. Courez maintenant, le temps de ministère, c'est pas juste on va prier à genoux et pendant que l'orgue chante tel que je suis avec les candles, les bougies derrière. Non, 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 aujourd'hui on va faire ça différemment. Le temps de ministère, c'est tout le monde court chercher 3 cartes et tu donnes à un une carte où tu dis bravo. J'ai vu comment tu as traversé l'épreuve en gardant la tête haute. Tu t'es pas laissé accuser, découragé. Je te félicite, tu es vraiment un exemple pour moi. Tu dis à quelqu'un merci parce que tu as vu quand j'étais dans l'épreuve et tu ne m'as pas jugé, tu ne m'as pas enfoncé, tu as juste tendu la main, tu es resté là, j'ai vu ta prière et ton attitude. Je veux te dire merci de m'avoir soutenu à ce moment-là. Tu as juste quelqu'un qui traverse l'épreuve, tu ne sais pas quoi dire d'autre que simplement lui dire courage, je sais que ce n'est pas facile de traverser la vallée de l'ombre de la mort. La seule chose que je peux te dire, c'est plante pas ta tente là, un jour on en sort. Ne reste pas là-dedans. Si tu traverses l'enfer, n'y reste pas. N'achète pas une maison de vacances là-bas. C'est un mauvais endroit, un mauvais lieu. Continue, reste pas dans la vallée de la mort. Lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je reste pas là. Continue, ça s'en vient à la fin bientôt. C'est pourquoi je veux te dire courage en ce moment. C'est tellement précieux, un petit mot écrit de temps en temps. C'est rien une parole, c'est rien un mot, mais la vie est remplie de paroles et de mots. Et quand nous nous remplissons, quand l'atmosphère de nos GPS, de nos familles, quand l'atmosphère de Sans Frontières est remplie de paroles valorisantes, est remplie de petits mots qui nous disent merci, courage, tu es un modèle, tu m'inspires, bravo pour ce que tu fais, alors ça devient tellement précieux. Puis il y a les langages d'amour. Alors les langages d'amour, je pense, beaucoup ici ont dû connaître ça, les langages d'amour, chacun répond à un langage différent, découvrez le vôtre, certains c'est les cadeaux, d'autres c'est les paroles valorisantes, pour d'autres c'est des moments de qualité, d'autres c'est les services qui ont été rendus. Chacun répond plus facilement à une sorte de langage d'amour. Je ne sais pas celui qui est le vôtre, votre favori. Moi j'aime beaucoup les moments de qualité, les paroles valorisantes. C'est comme ça que je suis fait et chacun a à savoir comment il est fait. Mais ce que j'aimerais dire à ce sujet, c'est que n'attendons pas des autres qui nous parlent dans notre langage d'amour. C'est à nous à parler aux autres selon notre langage d'amour. Pourquoi? Parce que Jésus ne nous a jamais dit « Faites aux autres ce qu'ils attendent que vous fassiez. » Mais il a dit « Faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent. » C'est pourquoi « Faites aux autres ce qu'ils attendent », c'est une autre étape plus mûre. C'est encore plus. Mais au moins, on peut commencer par « Faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent. » Alors, par exemple, moi, j'aime beaucoup la louange qui est une louange passionnée. J'aime la louange passionnée parce que je suis fait comme ça, j'aime la musique passionnée, j'aime YouTube, j'aime tout ce qui est bam, qui vibre, qui a la passion et de la foi, la qualité musicale, l'intensité spirituelle, pour moi, c'est tellement fort. Alors, si jamais un CD de louange passionnée était sorti, je me dis, ça, c'est quelque chose que j'aimerais qu'on me fasse si je suis une personne qui aime la louange passionnée. Il y a parmi nous une personne qui aime la louange passionnée. Tabitha, j'aimerais vraiment t'offrir ce CD. Je ne pense pas que je peux t'offrir mieux comme louange et adoration passionnée en 2009 que le CD éclectique qui vient de sortir, notre église à Montpellier. Je crois que c'est vraiment extraordinaire. Tu vas être béni avec Tabitha et moi je suis béni par la passion que Dieu t'a donnée. Ce que j'aime chez toi, Tabitha, c'est ta passion pour Dieu, la foi. Ce n'est pas juste une question de musique, ce n'est pas une question de style, ce n'est pas une question d'être la fille du pasteur. Non, c'est une louange avec foi. Parce que est-ce que c'est agréable à Dieu qu'on le chante, qu'on joue des instruments, qu'on lève nos mains, est-ce que c'est agréable à Dieu? Pas toujours, parce qu'il est impossible de lui être agréable sans la foi. C'est pourquoi on peut chanter les plus beaux chants, avoir les plus beaux instruments, les plus belles manifestations extérieures. La Bible dit, car il est impossible, sans la foi, il est impossible d'être agréable. Ce que j'aime chez toi, c'est la foi avec laquelle tu célèbres le Seigneur. Alors mon cœur est connecté à ce genre de choses-là. Et j'aime ça, et merci de nous inspirer dans cette foi-là. C'est un tout petit ce que j'aime chez toi, mais imaginez, on se met à 10 autour de Tabitha, puis on la lapide de paroles de bénédiction de ce que j'aime chez toi. Et ça fait du bien, et ça fait du bien de se faire ça les uns aux autres. Béni soit Dieu. Merci encore, Tabitha. Et alors, certains vont dire, « Oh, mais tu sais, moi, les mots, je ne sais pas écrire, les cadeaux, je ne sais pas. Moi, je suis gestuel. » Bon, ben d'accord, dans ce cas-là, on peut faire un geste, on peut inventer toutes sortes de choses. « Hug me », dans ce cas-là. Hein? Dans ce cas-là, tu peux très bien décider, « Bon, ben écoute, on termine ce culte, et puis moi, je vais terminer ce culte, et je vais faire un hug à 5 personnes. Je veux exprimer mon amour. » Mais d'une façon ou d'une autre, l'amour s'exprime. Quelqu'un, un philosophe, a dit, l'amour, ça n'existe pas, il se trompait. Il dit, il n'y a que des preuves d'amour. Ça veut dire, l'amour se manifeste. Par essence même, l'amour n'est pas une philosophie abstraite. L'amour devient un acte. L'amour nous pousse à agir. Alors, en parole, par écrit, par des cadeaux, par des gestes, quels qu'ils soient, mais exprime ton amour. Je me souviens, une fois, j'étais parti en voyage. Je ne sais pas si tu te souviens, Isabelle. Tu m'avais mis... Parce que de temps en temps, on cherche à être ingénieux en amour. Puis elle m'avait mis plein de petits mots d'amour partout. Je prenais mes chaussures, il y avait un mot d'amour. J'ouvrais ma trousse de toilette, il y avait des mots d'amour dedans. Je prends mon pyjama, il y avait des mots d'amour qui tombaient. Tous des mots d'amour partout. Et je crois qu'il nous faut juste être ingénieux dans l'amour pour l'exprimer. Soyons ingénieux dans les relations. De temps en temps, ça demande d'avoir juste des idées. Soyons ingénieux en relation. Il y a toujours besoin de ça. Toujours besoin d'une nouvelle idée en relation. 8e clé, c'est d'être des supporters les uns pour les autres. D'être des supporters. Quand la Bible nous dit, Éphésiens 4, 2, supportez-vous les uns les autres, elle ne parle pas de tolérance. Elle ne dit pas, ayez de la tolérance. Tolérez-vous les uns les autres. Ils sont durs à supporter, mais on... Non, non. Elle parle d'être des supporters. Vous dites des partisans ici au Québec. D'être des... Le supporter, c'est celui qui vient pour encourager, pour dire « on est derrière toi », etc. Et c'est réellement les personnes qui viennent dire « je suis fier de toi ». C'est la fierté, ce n'est pas juste la tolérance. Je suis fier d'être à Sans Frontières. Je suis fier d'une personne comme Denise qui travaille si bien au Grenier Joseph. Je suis fier de l'intégrité de Nelson pour les comptes. Je suis fier de l'application de Sylvain et des services 5 étoiles. Je suis fier de tellement parmi vous, fier de l'équipe à la Sono, fier de l'équipe qui fait les DVD, fier de Normand, même quand il est hospitalisé, il s'assure que les choses se fassent. Je suis fier des frères et sœurs qui sont là. Et on a besoin d'apprendre à être fiers les uns des autres, fiers des leaders GPS, fiers du témoignage de Carl, quand vous allez le voir en vidéo, c'est tellement bien fait, c'est tellement beau, je suis fier, et plusieurs parmi vous, on pourrait vraiment être fiers, et de temps en temps, un culte agréable à Dieu, ce serait qu'on prenne le temps d'aller se dire combien on est fiers et de quoi on est fiers les uns des autres. Fier de toi, Johan, de ce que tu traverses en ce moment pour l'entreprise et que tu vas produire quelque chose de beau et la façon dont tu le fais, la générosité, la qualité que tu montres envers tes employés, tes salariés. Fier d'avoir des hommes d'affaires comme toi, de voir cela. Je suis fier de ceux qui se battent. Le Seigneur lui-même loue ses serviteurs. Il dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. C'est se dire donc des félicitations à chaque fois que quelqu'un fait quelque chose. On pourrait simplement venir et exprimer notre fierté. Quand Paul parle aux Philippiens, Philippiens 4, 1, il dit « Vous êtes ma couronne ». C'est quand même fort de pouvoir se dire ce genre de choses-là. Alors, c'est la reconnaissance. La reconnaissance, c'est comme le Père a reconnu Jésus. Jésus savait qui il était, mais publiquement, le Père a dit qui il est pour lui. Il a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, toute ma gloire, toute ma fierté ». On a tellement besoin de cette reconnaissance qui est une expression publique d'une réalité cachée que vous avez connue. J'ai connu quelque chose, j'ai vu quelque chose et maintenant je vais le dire publiquement, je vais le reconnaître. Pendant longtemps, David tuait des ennemis, il était un vaillant héros à la guerre, mais un jour, ils ont reconnu, ils ont dit, Saül a tué 7000 et David ses 10 000. C'était exprimé. C'est le moment où on exprime publiquement ce qui a été reconnu. À ce moment-là, cette reconnaissance, c'est une affirmation sur la personne qui est en accord avec la volonté de Dieu. Dieu dit quelque chose d'une personne et nous, nous disons Amen. Nous disons la même chose que Dieu. Nous confessons ce que Dieu dit. Cette affirmation libère un don qui était là dans la personne, mais qui n'avait pas sa pleine mesure. Le don était là, mais l'affirmation et la reconnaissance libèrent le potentiel qui était un peu retenu. C'est pourquoi nous avons besoin d'exprimer cette fierté les uns aux autres. Quand quelqu'un conduit la louange, quand quelqu'un s'occupe de ministère avec les enfants, chaque fois que vous exprimez quelque chose de reconnaissance, je reconnais que ça, tu l'as bien fait, la personne va mieux le faire la fois d'après. Parce que c'est comme si le don est en train de naître, mais de le reconnaître positivement, ça le libère. C'était là potentiellement, mais la reconnaissance le libère. Maintenant, il vient à manifestation par une parole qui affirme. L'affirmation crée quelque chose, libère quelque chose dans l'invisible. C'est pourquoi pour vos enfants, pour votre conjoint, pour vos amis, libérez leurs dons juste en les reconnaissant. Parfois, ça ne coûte rien de remercier ton épouse quand elle a fait un bon plat et dire « Je reconnais, tu es vraiment une bonne cuisinière. Je reconnais, je suis un homme privilégié. » De pouvoir reconnaître, simplement, c'est tellement précieux. Rechercher la gloire des autres est un honneur. C'est ne pas payer ses dettes que de refuser de juste louange, nous disait Voltaire. Et effectivement, cette reconnaissance, le fait d'être supporter, ça change l'atmosphère. L'insécurité qu'il y a à ne pas savoir si « Est-ce que je suis apprécié ?» Vous tous qui allez dans vos GPS, s'il vous plaît, dites à vos leaders GPS, vous êtes heureux de la façon dont ils le font. Vous êtes fiers d'eux. Vous allez voir, ils vont faire mieux la semaine d'après. C'est vrai parce qu'ils le font avec foi et en même temps quelque chose qui est retenu dans leur potentiel, qui est là. Ce n'est pas une incapacité, c'est une capacité pas encore libérée. Et quand vous reconnaissez, je suis fier d'être dans ce GPS, je le libère. Tu vas voir, la semaine suivante, il y a plus. Et quand nous parlons des choses qui ne sont pas encore comme si elles étaient, c'est pas, on n'invente rien, mais on reconnaît qu'il y a quelque chose ici, un dépôt divin, et on le dit. Le fait de le dire libère de plus en plus les personnes. C'est pourquoi, vous savez de quoi ont peur les sportifs de haut niveau? Ils ont peur de jouer chez l'adversaire. Pourquoi? Ils ont peur quand quelqu'un joue à domicile. Pourquoi? Il y a trop de supporters. Les supporters créent, dans le soccer, on appelle ça le 12e homme, le 12e joueur, si vous voulez. Ils créent une atmosphère qui fait que quand tu rentres là et que tu entends tous ces gens qui sont en train de libérer le potentiel qui est dans leur joueur, par la fierté, par l'appui, par la reconnaissance qu'ils leur donnent, par l'encouragement qu'ils leur donnent, une force potentiellement là et libérée va se manifester. C'est pourquoi quand vous regardez les résultats sportifs, vous verrez toujours que les clubs gagnent toujours plus facilement à la maison qu'à l'extérieur. Pourquoi? Si ce n'était pas la force de l'encouragement, la force des supporters, ça n'arriverait pas. Je me souviens, j'étais en Corée, moi. Je suis arrivé dans un stade où il y avait 80 000 places. C'était Hallelujah Football Club. Ils ont un club de football, tous sont chrétiens. Et en rentrant là, nous, c'était un concert de prière, mais tous les étrangers, on était quelques 800 ou 1000, venant de différentes nations. Nous, on est allés sur le terrain même de soccer, mais autour de ça, il y avait 80 000 personnes qui chantaient « Alléluia ». Je suis entré simple, « Alléluia ». Mais 80 000, je suis rentré et mes jambes ont commencé à trembler. Et moi, j'ai joué au soccer, puis je me suis dit, oh, « Heureusement que je ne rentre pas dans un stade où 80 000 chantent ça pour encourager « Alléluia Football Club ». Parce que moi, là, j'aurais les jambes vraiment qui seraient en train de tomber. Et je crois qu'il y a une puissance dans l'encouragement. Ça se passe à Liverpool, ça. You never walk alone. Tout le monde a peur en Europe d'aller jouer à Liverpool à cause de ça. Parce que 60 000 personnes qui chantent toujours des heures avant le match et pendant le match, You'll never walk alone. Tu ne marcheras jamais tout seul. Tu ne marcheras jamais tout seul. Et quand tu es adversaire là, tu sens vraiment que dans cet endroit, il y a un tel climat de support, de soutien, d'encouragement, de fierté de leur équipe, que tu es diminué parce que leur potentiel augmente. Et il faut que l'ennemi de nos âmes sache qu'il y a une église à Saint-Hubert dans laquelle nous sommes supporters les uns des autres, fiers les uns des autres. Et il va avoir un temps difficile sur le terrain de Saint-Hubert et du Québec parce que les chrétiens de cette église vont se supporter, se soutenir, exprimer leur fierté les uns pour les autres. Est-ce qu'on est prêts ce matin? Alléluia! Alors, nous avons besoin d'apprendre à applaudir et célébrer les autres, d'arrêter ce cycle de pensée, de comportement qui nous sépare des autres, qui nous empêche de les connaître ou de les reconnaître réellement. Au lieu de chercher ce qui ne va pas chez eux, discernons les forces, les talents, les grâces et les qualités. Vous savez quoi? Je vais vous faire une petite feinte qu'on ne fait pas dans les églises d'habitude. Je vais vous faire un appel au milieu du message, presque trois quarts du message. Ce n'est pas un appel à la prière, mais un appel à l'action. Commencez, pendant que je finis de parler ici, juste regardez autour de vous et décidez une personne au moins que vous allez aller voir dans 30 secondes et à qui vous allez dire « Je suis fier de toi pour ça et ça et ça. Je suis fier de toi. Je suis fier de toi pour ça et ça et ça. Je suis fier de toi. Je suis fier de toi, Simon, pour ta passion pour Jésus et ton amour pour ta maison, la façon donc tu élèves les enfants. Moi, quand je vous vois tous les deux, Cathy et Simon, avec vos enfants, je suis vraiment fier de vous en tant que parents. Vous êtes des beaux modèles de parents. Vos enfants sont beaux modèles de famille. Si moi, je suis vraiment ébloui par ça. Alors, ce genre de choses-là, et c'est vrai, vous pouvez vous lever dans quelques secondes, vous allez aller trouver quelqu'un. Moi, j'en vois, je commence à connaître de plus en plus de monde ici, où je commence à être un peu plus fier de certains. Quand je ne vous connais pas encore, désolé, ce n'est pas que je ne suis pas fier de vous, c'est que si je ne vous connais pas, je ne peux pas encore montrer de reconnaissance. J'ai besoin de passer par la connaissance pour montrer la reconnaissance. Ainsi, on va célébrer les autres, on va applaudir leur réussite, féliciter leur réalisation, acclamer leurs résultats. Quand il y a des beaux résultats, qu'on puisse acclamer, être fier. Vous êtes prêts? On va bientôt y aller. Pourquoi est-ce que j'aimerais qu'on fasse ça? Parce que le vrai test de l'amour fraternel ou des relations, c'est la reconnaissance du succès de l'autre. Nous, les chrétiens, nous sommes les champions de la compassion pour ceux qui échouent. On a tellement développé la compassion pour ceux qui échouent, c'est vrai, qu'on est devenus les meilleurs défenseurs des losers. C'est nous, les chrétiens, on est les champions qui défendons les losers. Et puis, à force, il y a un esprit de loser qui est là. Mais quand quelqu'un réussit, on est un peu soupçonneux, là. Suspicion. Il réussit. Pas besoin d'encouragement. Je ne sais pas comment il a fait. Est-ce qu'il a été honnête? Est-ce que... Vous voulez simplement de dire, « Ouais, c'est magnifique, je suis fier, tu as réussi. Et maintenant, tu sais quoi? Tu as tellement d'avance sur moi dans ce domaine que si tu pouvais m'enseigner comment je peux faire mon prochain pas, je veux apprendre de toi. » Et là, on est tous dans le camp des gagnants. C'est pourquoi le vrai test des relations, ce n'est pas de juste pleurer avec ceux qui pleurent, c'est aussi de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Et on a besoin dans l'Église, c'est l'heure de rééquilibrer ça. Qu'on soit les champions des gagnants aussi. Les champions, ceux qui sont fiers de ceux qui viennent de réussir. Quand quelqu'un réussit, de ne pas laisser la jalousie se cacher là, et puis tout le monde la voit quand même, mais plutôt d'exprimer de la reconnaissance, du soutien et de la fierté. Neuvième clé, on va bientôt arriver au trousseau. Bâtir la confiance par la fidélité. Neuvième clé, la dixième, ce sera très très vite, mais neuvième clé. La fidélité bâtit la confiance, l'incertitude nourrit la méfiance. Bien souvent, pourquoi est-ce que nous avons du mal à rester dans les relations? C'est parce qu'on dit, j'ai plus confiance, j'ai perdu confiance. On a tellement besoin dans la vie de confiance. Et de toute façon, on vit constamment en comptant sur les autres. Imaginez, vous vous levez un matin, et puis la société de chasse-neige là n'est pas passée. Vous ne pouvez pas sortir. Mais qu'est-ce qu'ils font? Puis, le lendemain, c'est tous les magasins de nourriture, toutes les épiceries. Ils n'ouvrent pas. C'est leur jour, ils ont envie de faire la grasse matinée. Ils dorment jusqu'à midi. Donc, vous mangez, vous n'avez rien à manger. Puis, un autre jour, c'est sur les routes qu'on a On a laissé ça pendant un mois. Puis après, c'est les poubelles. Vous allez croire, ça ressemble à la France qui fait la grève. Un petit peu. Ou à la Guadeloupe qui fait les grèves. C'est un petit peu ça. Mais on se rend compte combien on dépend de la fidélité des autres constamment. Regardez ce matin, la fidélité de Julie qui préparait tellement de choses en arrière de cette célébration. De l'équipe de louanges avec David qui sont là depuis des heures et des heures. Toute l'équipe à la sono, ceux qui sont là chez les enfants et la pouponnière. Et quand il y a quelque chose qui manque, on arrive à la pouponnière, il n'y a pas personne. Mais comment ça se fait? Parce simplement, on prend pour acquis qu'on peut compter sur les autres. Ça s'appelle la fidélité. Et dès qu'on n'en trouve plus, ça ne fonctionne pas. Mais comment ça se fait? Ils ne sont pas fiables. Parce que toute notre vie, les uns avec les autres, est basée sur le fait que certains sont fidèles. Et parce que certains sont fidèles, nous pouvons compter dessus. Mais le jour où ça ne joue plus, alors ça commence à devenir difficile. C'est pourquoi la Bible nous dit, qui trouvera un homme fidèle? Beaucoup se vantent de leur libéralité, mais qui trouvera un homme fidèle? Un homme fidèle, quelqu'un qui nous permet de compter dessus. Et c'est pourquoi je crois que nous devons apprendre, nous, de plus en plus, si nous voulons avoir cette clé relationnelle, à être des personnes qui tiennent parole, des personnes fidèles. On dit de temps en temps, oui, je vais prier pour toi. Oui, je te reviens là-dessus. Ben, on se rappelle. On se voit cette semaine. Ne vous inquiétez pas, monsieur, le chèque est dans l'enveloppe. Je n'ai pas reçu ton courriel. N'est-ce pas? Et je crois que plus on est dans ce genre de propos qui ne sont pas sûrs, plus je viens, je fais ça, tu peux compter sur moi, puis après, ça tient ou ça ne tient pas? Si dans nos relations les uns avec les autres, nos paroles sont comme de la glace trop fine, ça va s'effondrer. Alors tu coules une fois dans l'eau gelée, deux fois, dix fois, un jour tu dis, tu ne peux plus compter sur les autres parce que cette personne, ça fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, pas fidèle. Elle dit une parole, elle le croit, mais la glace est tellement fine que ça peut s'écrouler à tout moment. C'est pourquoi nous devons apprendre les uns avec les autres à être des personnes fidèle en parole. Si on donne un rendez-vous, on ne peut pas y être, on prévient. C'est pas grand-chose, mais on prévient. On honore quand on dit, on se voit cette semaine, on se voit. Je te rappelle, on se rappelle. Parce que chaque fois que nous ne le faisons pas, et chacun d'entre nous ne le faisons pas, et moi-même, parfois, je peux ne pas le faire, mais je veux m'appliquer à être une personne qu'on va qualifier de fiable. Quand il te dit quelque chose, il s'y tient. Et là, tu sais que tu es sur un terrain solide. Ça arrive et il y a toutes sortes de circonstances qui font que parfois, on est obligé de ne pas tenir parole et on va expliquer, il y a des raisons, etc. Je te vois, Simon, c'est pour ça que je dis ça. Et t'inquiète pas, pour ce genre de situation, il y a une petite situation entre nous, donc il n'y a rien à ce sujet qui serait personnel ici. C'est vraiment pour chacun d'entre nous d'apprendre dans nos vies à des personnes qui vont tenir parole, tiennent les paroles saintes de la vie, que ce soit avec nos enfants, nos parents. Vous savez, les enfants, on a fait une enquête là-dessus, la chose la plus grande que les enfants reprochent à leurs parents, c'est qu'ils font des promesses et ils ne les tiennent pas. Et je crois que ça, c'est une des choses les plus difficiles. Tenez avec vos amis. L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Un ami est quelqu'un qui entre dans ta vie quand tout le monde en sort. Je me rappelle, j'ai quelques amis, mais j'en ai deux qui sont vraiment des amis, des vrais, ceux qui sont restés avec moi au moment où tout le monde lâchait. Un d'entre eux, c'est mon ami Jean-Hubert Mazel, je dis son nom s'il m'entend sur le CD un jour, il saura que je l'aime encore, même si on l'a pas, je ne l'ai pas vu depuis des années. Mais j'étais en 1986, un papa de 32 ans de notre église était décédé dans des circonstances, je ne vais pas raconter ici, mais je croyais qu'il allait ressusciter, toutes les choses, tout nouveau chrétien depuis quelques mois, il avait vécu des miracles, et là, il était mort. Mais il avait écrit une lettre à n'ouvrir qu'en cas de décès. Alors moi, j'ai ouvert cette lettre. Le jour de Pâques, il était mort. Et puis, il me dit, ce sera à Pâques. Je vais passer par la mort. Tu vas être avec telle et telle et telle personne. Vous allez venir prier pour moi et je vais ressusciter. Moi, j'ai vu deux personnes ressusciter depuis que je suis croyant. Et ce n'est pas que je sois un grand spirituel. Je n'ai jamais fait exprès quand les personnes sont ressuscitées. Si je pouvais faire exprès, je n'aurais pas vu que deux, j'aurais vu des milliers. D'accord ? Donc, je n'ai pas fait exprès. Mais cette fois-là, je voulais le faire exprès. Et mon ami Patrick n'est pas ressuscité. Et j'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai crié, je l'aurais giflé, je l'aurais battu. De toute façon, arrivé au ciel, je vais régler un compte avec toi. Et je le crois. Si juste cette petite chose, je pouvais la garder au ciel quand je vais rentrer. Il est où le bureau de Patrick ? C'est lui que je veux voir en premier. Mais quelqu'un m'a dit, quand tu arrives au ciel, tu oublies ça. Je dis, oh, c'est presque dommage. Mais bon, ça va. Mais là, je ne comprenais pas, parce qu'on a tous été tellement secoués dans notre foi. Puis peu à peu, au début, le matin, tous les hommes de Dieu avec moi, tout le monde avait la foi. Arrivé à 4 heures de l'après-midi, ils avaient tous des visions charismatiques. C'est très pratique d'être pentecôtisant. Tout le monde voyait une barrière qui tombe, un veto, un panneau sens interdit qui venait de pousser. Enfin, toutes sortes de choses là, pour qu'ils puissent rentrer à la maison. Et au moment où le soir tombe, la nuit arrive, la jeune épouse est là, avec 3 enfants et le 4e dans le ventre. C'est-à-dire, on l'a appelé Raphaël, le Dieu qui guérit, parce que Patrick a la foi qui va guérir et ressusciter. Les enfants disent, est-ce que papa devra décaler son anniversaire de 3 jours, parce que s'il meurt 3 jours et qu'il ressuscite comme Jésus. Mais les gens sont là, et t'es pasteur, t'as 26 ans, et tu dis, je ne peux pas laisser ces gens. Je reste, j'ai prié tout ce que j'ai pu. Et au moment où tout le monde partait avec leur petite vision, mon ami Jean-Hubert restait avec moi la nuit. Et les moments où je dis, Jean-Hubert, ça va être dur pour moi s'il ne se passe pas quelque chose. Puis là, le médecin catholique qui débarque. Je vous le dis à vous parce que vous êtes pasteur, elle me dit. J'ai fait un rêve la nuit dernière. J'ai rêvé que M. Patrick allait ressusciter. Vous aussi, vous y mettez. Alors, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Je vous dis, même quand il a été enterré, je suis allé parler sur la terre. J'aurais été prêt avec une pelle à sortir le cercueil, mais s'il ne se lève pas, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? J'étais tellement en train de remuer. Mais Jean-Hubert restait avec moi dans un des moments les plus douloureux de ma vie. Entre l'an 2000 et l'an 2003, on a vécu des troubles avec plusieurs de nos enfants. C'était des moments douloureux dans ma vie. Mais une fois par mois, mon ami éthiopien, Teferi, qui est pasteur en France, venait me voir. Il faisait 100 km aller, 100 km retour, juste pour qu'on prenne un jour de jeûne et prière ensemble. Pas de solution, etc. Juste prier avec toi. Être avec toi dans ce moment-là, ça, c'est 3 années que je ne peux pas oublier. Un ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. D'apprendre à tenir avec vos amis. Suis-je le gardien de mon frère? Oui. Oui, nous sommes appelés à être gardiens les uns des autres. Les vrais amis sont constants et ils disent, tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi. Ça ne veut pas dire que les enfants dans votre famille, là, il y a un petit enfant qui disait... Papa dit, tu peux compter sur moi. Et le petit met sa tête sur l'épaule de l'enfant. Il dit, 1, 2, 3, 4. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire, tu peux t'appuyer sur moi et je serai là. Tu peux compter sur moi. Est-ce que tu as 3 noms que tu pourrais appeler en cas de difficulté majeure dans ta vie? Et est-ce que 3 personnes t'appelleraient si elles étaient en grosse difficulté? Est-ce que tu es un ami pour 3 personnes? Est-ce qu'on peut dire, il y a des gens qui savent, peuvent compter sur toi. Ça, c'est une des clés pour développer des relations, de devenir une personne fiable et fidèle. C'est un chant pour l'enfant qui est sans père, pour ce petit garçon qui vit avec le sida. Je vais te raconter l'histoire. Tu peux compter sur moi. Il y a un homme qui se tient sur le coin de la rue. Il n'a pas de maison. Il n'a pas de nourriture. Et son ciel bleu est parti. Est-ce que tu peux l'entendre pleurer? Il y a cette fille qui cherche un père et un ami priant qu'un jour cette situation finisse. Mais au lieu de te détourner, ouvre tes bras, ouvre ton cœur et dis, je suis là. Tu n'as pas à t'inquiéter. Je peux voir tes larmes. Je serai là en me dépêchant quand tu vas m'appeler. Les amis sont là pour te rattraper au jour où tu vas tomber. Voilà mon épaule. Tu peux compter sur moi. You can lean on me. Il y a cet enfant qui était malade et qui suppliait d'être libéré. Mais il n'y a pas de soin pour cette maladie. Il regarde à sa maman et alors qu'elle prend sa main, priant qu'un jour le soleil brille de nouveau et la douleur quittera. Me voici. Tu n'as pas à t'inquiéter. Je vois tes larmes. Je me dépêcherai de venir quand tu vas m'appeler. Les amis sont là pour te relever au jour où tu vas tomber. Voici mon épaule. Tu peux compter sur moi. Dis-moi, comment est-ce que je peux croire en Jésus quand je n'ai jamais vu sa face? Et quand je te vois pleurer et que je me détourne de toi, alors prends ma main et laisse-moi te présenter un de mes amis. Il attend juste de soulager ta douleur. Il t'aime plus que tu peux jamais imaginer. Alors au lieu de te détourner, ouvre tes bras et dis. Et j'aimerais qu'à l'Église sans frontières, on soit nombreux à pouvoir dire les uns aux autres. Me voici, je suis là. Tu n'as pas à t'inquiéter. Je peux voir tes larmes. Et dans les GPS, je serai là quand tu vas m'appeler. Parce que je suis ton ami. Et les amis sont là pour te rattraper au jour où c'est difficile pour toi, pour te porter. Voici mon épaule. Tu peux compter sur moi. Et que sans frontières soit une église où des centaines disent, voici mon épaule. Tu peux compter sur moi. You can lean on me. Tu peux compter sur moi. Je vais être une personne de parole. Je vais être présent pour toi. Je ne veux pas être une personne qui peut casser comme de la glace fine. Tu es mon ami, mais tu es aussi mon frère. Voici mon épaule. Tu peux compter sur moi. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Amen. Je voudrais arrêter là, mais je ne peux pas parce que je vais prendre 2 minutes juste pour dire ceux qui n'ont personne pour les défendre ici. Que nos relations, une clé de nos relations, c'est ne pas avoir des relations juste entre nous, des relations fermées, mais de penser comme Jésus le faisait avec ses disciples, ses amis. Quand Matthieu a organisé cette fête chez lui, il avait tous les amis qui peuvent dire « tu peux compter sur moi », les disciples qui marchent avec Jésus. Mais il avait aussi invité tous ses anciens amis, les collecteurs d'impôts, les gens qui avaient des vies toutes croches, pas droites, des gens qui étaient dans le monde. Mais quand Matthieu faisait une fête avec Jésus, ce n'était pas une fête fermée, c'était une fête ouverte. Et c'est pourquoi une des clés de nos relations, c'est que Sans Frontières ne soit pas une église fermée, mais une église ouverte. Que nos GPS soient des lieux ouverts, que nos maisons soient des maisons ouvertes, pour étendre cette communion, cette relation aux fils éloignés, aux gens sans Dieu. Nous voulons la koinonia qui est la communion, mais pas la koinonite qui est une inflammation de la communion fraternelle, un cercle fermé dans lequel un non-croyant qui ne connaît pas les règles de la maison ne peut pas rentrer parce qu'on est si bien entre nous. On
a notre langage. On n'apprend plus à parler le langage des autres. Et ça devient un lieu hermétique. C'est pourquoi toute vraie communion est une communion ouverte. Il doit toujours y avoir une assiette de plus à table. Il doit toujours y avoir une possibilité pour que quelqu'un, un fils prodigue, entre. C'est pourquoi nous voulons faire de Sans Frontières une église qui peut être la maison du Père pour ceux qui ne sont pas encore revenus. Parce que notre communion doit être une communion qui est concernée pour préparer la fête de ceux qui vont revenir. Et dans quelques jours, le 15 février, nous aurons une fête ici avec notre ami le pasteur Randy Johnston, dans le but d'avoir un moment de célébration de vie changée, pour commencer à partager avec ceux qui ne sont pas encore au Seigneur la fête de la maison du Père. Nous voulons faire de ce lieu une fête dans laquelle vous allez voir une atmosphère de fête dans laquelle ils vont pouvoir venir, dans nos maisons, dans nos célébrations. Faisons de la place pour les chercheurs de vie. Et si d'ici le 15 février, je pouvais vous lancer l'invitation, ou la proposition, la demande, si vous essayiez d'inviter une personne non-croyante chez vous, pour un café, pas pour leur dire les quatre pas pour recevoir le salut, pour juste s'intéresser à leur vie, juste leur laisser une bonne impression, qu'ils puissent se dire, j'ai passé un moment avec des chrétiens, j'ai même pas eu mal, il a pas essayé de me convertir.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.